En cette période automnale, les derniers jours de chaleur ont fait monter encore quelques girolles. Ce sont, vous le savez peut-être, d'excellents champignons de la famille des chanterelles. Permettez-moi toutefois de préférer une autre espèce de chanterelle, celle que l'on déguste non pas au palais mais à l'oreille. C'est une corde amie du violoniste, car c'est la corde en mi, la plus fine, la plus aiguë, sur laquelle se joue le chant, d'où son nom. Ainsi, quand ils font vibrer leur chanterelle, les meilleures virtuoses lui donnent des ailes. On peut aussi en tirer des sanglots longs. Elle peut aussi imiter le cri de la mouette, ce qui est d'ailleurs la spécialité de mon invité. Écoutez. Bonjour Didier Locoud.
Bonjour.
C'est vraiment du violon là ?
Mais oui, c'est du violon.
C'est vous ?
Oui.
C'est incroyable, on se croirait au bord de la mer.
Je suis né au bord de la mer, donc voilà, ça m'a
violoniste à la réputation mondiale. Vous êtes de Calais, du Nord, du Pas-de-Calais précisément. Vous célébrez vos 40 ans de carrière au Châtelet, à Paris, le 14 novembre prochain. Vous auriez pu devenir premier violon dans un grand orchestre ou même soliste, puisque vous avez eu le premier prix du Conservatoire de Calais précisément, même le premier prix national de la SACEM à l'âge de 16 ans. Pourquoi avoir choisi le jazz ?
Oh, c'est une histoire familiale. Mon grand frère Francis, pianiste de jazz déjà, 4 ans de plus. Donc il était vraiment lui un passionné de l'improvisation. Puis mon père aussi, qui écoutait du jazz, du classique, était violoniste, mon père. Et donc tout naturellement, vers les 12-13 ans, j'ai été happé un peu par cette liberté d'expression que m'offrait cette merveilleuse musique de jazz.
Mais le classique est-il si éloigné du jazz que cela, ou réciproquement d'ailleurs ?
Non, rien n'est éloigné l'un de l'autre. On les éloigne. On sépare un peu les choses, mais je pense que il y a la musique, point. C'est tout. Et la bonne musique, mais il n'y a pas de grande et de petite musique. Non.
D'ailleurs, le classique demeure pour vous une grande source d'inspiration ?
Bien sûr, puisque le jazz...
Vous avez écrit du classique ?
Oui, j'écris régulièrement.
Ce concerto pour mouette, si on peut dire, c'est du classique ? Parce qu'après, ça s'enchaîne avec du contemporain.
C'est l'écriture symphonique. Ouais. Donc ça, l'écriture symphonique, oui, c'est un merveilleux outil pour écrire de la musique. Et je l'utilise notamment pour des musiques de films, dont un film d'ailleurs qui va sortir ce mois-ci, qui s'appelle Young Pérez, pour lequel j'ai écrit la bande originale avec orchestre symphonique.
40 ans de carrière, ça vous fait quoi ? Ça passe vite.
40 ans de carrière, ça passe. Oui, je me disais, c'est étonnant quand même.
Et vous avez commencé jeune. Hein.
Oui, j'ai 17 ans avec Magma, le groupe Magma.
Ah voilà. Tiens, puisque vous en parlez, voici Magma. Ça, c'était en 73, oui. C'est ça, c'est au tout début. Vous êtes arrivé comment à Magma ?
J'y suis arrivé par une audition avec mon frère Francis qui auditionnait et qui a dit à Christian Vander, le leader du groupe Magma, est-ce que je peux emmener mon petit frère qui joue du violon à l'audition ? Et en fait, voilà, on est restés tous les deux. Lui, il n'est resté que 6 mois, mon frère, et moi, je suis resté pendant 3 ans et demi.
Oui, c'est un groupe qui a marqué beaucoup de générations avec cette forme de jazz. Et c'est à ce moment-là que Stéphane Grappelli vous a adoubé, en quelque sorte.
Oui, j'ai eu la chance à la fin de mon passage chez Magma de rencontrer Stéphane Grappelli au festival Jazz Pulsation de Nancy. Et tout de suite, Stéphane m'a emmené dans ses tournées et m'a présenté un peu comme son successeur après avoir présenté naturellement quelques années auparavant Jean-Luc Ponty.
Mais comment ça s'est passé entre vous ? Comment il a flashé sur vous, le lien ? Qu'est-ce qui a fait que la...
Je crois qu'il était étonné de voir que, en fait, on pouvait jouer autre chose au violon que ce que lui-même avait apporté. Et il était toujours très intéressé par l'innovation. Et c'est pour ça que Jean-Luc Ponty, avant moi, l'avait aussi fort intéressé. Et quand il m'a entendu, effectivement, il a trouvé qu'il y avait encore quelque chose un peu de différent.
Donc, il y a une chaîne comme ça de violonistes français ? Parce que je sais qu'il vous a remis un jour le violon de Michel Warlob, qui était alors le précédent, la génération précédente des années 30, 40.
C'est vrai qu'il y a une filiation, il y a surtout une école française du violon de jazz, et il ne faut pas l'oublier celle-là. C'est vrai qu'on parle toujours du classique, de l'école du violon classique, mais la plus importante, c'est l'école du violon de jazz. On a de merveilleux violonistes de jazz ici en France.
Comment Grappelli vous a-t-il appris, Didier Locoud, à garder votre fraîcheur, parce que c'est... Vous dites souvent ça, hein. Grappelli m'a dit « garde ta fraîcheur ».
Oui, garde ton regard d'enfant. Et oui, effectivement, il m'a appris sans jamais vouloir et me montrer qu'il m'apprenait. Ça, c'était très fort et la meilleure manière.
Et comment on fait pour garder sa fraîcheur? Il faut toujours être ouvert, curieux.
Oui, je crois que c'est la curiosité, c'est l'éveil.
Inventer.
Simplement rester éveillé à la vie parce que chaque seconde, chaque fraction du temps est un moyen de vivre une expérience différente.
On ne va pas retracer les 40 ans de la carrière. On a vu le début avec Magma, ensuite tout s'est enchaîné, rencontres, albums, tournées mondiales, les récompenses. Vous l'avez construite cette carrière ou ça s'est fait un peu comme ça au fil des choses, du temps ?
Non, je pense que j'ai incroyablement, instinctivement senti la manière avec laquelle je devais surfer sur la vague de la vie et tout ce que j'ai désiré, pas eu envie parce que j'aime pas le mot envie, mais tout ce que j'ai désiré en fait s'est présenté à moi d'une manière incroyablement régulière, c'est-à-dire que j'avais prévu que je jouerai au Carnegie Hall, par exemple, à l'âge de 20 ans. Et c'est à peine à 20, mes 21
fait, ouais.
ans que j'ai joué au Carnegie Hall avec Dave Brubeck.
Où en est le jazz-rock aujourd'hui ?
Le jazz-rock, malheureusement, est une forme de musique qui a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de public au jazz, qui était en perdition de public. Et puis, le jazz-rock s'est fait un peu étouffer, on va dire, par la critique de jazz, et par les spécialistes de cette musique qui voyaient dans le jazz-rock quelque chose de trop populaire.
Vous êtes la partie émergée de l'iceberg, un peu ? Enfin, on voit...
C'est-à-dire que je ne suis pas resté au jazz-rock. J'ai toujours essayé d'occuper un champ très vaste au niveau des esthétiques.
Vous avez voulu écouter, puisqu'on demande à nos invités leurs choix musicaux, vous avez voulu écouter Biréli Lagrène, Place du Tertre. Pourquoi ?
Parce que Biréli Lagrène est un de ces musiciens instinctifs, qui ne connaît pas une note de musique, mais c'est un des maîtres musiciens. Oui, il ne connaît pas une note de musique. Et il joue du violon, il joue de tout, c'est phénoménal.
Biréli Lagrène à la guitare dans cette vous me disiez à l'instant c'est le plus grand successeur
oui,
de Django Reinhardt.
Voilà, c'est celui qui a su étendre le style Django Reinhardt, le style manouche. Il n'est pas resté dans le style, il a fait vraiment une extension. C'est un musicien fabuleux.
Le morceau s'appelle Place du Tertre. Didier Locou dans votre compagnie tout au long de cette demi-heure. On se retrouve dans moins de 2 minutes avec une petite surprise dans une dizaine de minutes. Ce sera juste après le rappel de l'actualité.
Bernard Thomasson.
Rencontre avec le violoniste Didier Locoud pour ses 40 ans de carrière le 14 novembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Ça sera quoi ? Tous les amis seront là ? Une grande fiesta ? Vous aimez faire la fête, hein ?
Oui, j'adore, parce que tous les 10 ans comme ça me permet...
Mais vous l'avez déjà fait pour les 30 ans, c'est vrai.
Oui, ça me permet de revoir les amis avec lesquels je ne joue pas toujours.
Alors, il y aura Christian Vander de
Christian
Magma,
Vander et
Thomas
Dutron,
votre
Thomas
frère
Dutron,
Francis,
Biréli Lagrène, Vadim Repin, le grand violoniste classique russe.
Et Patricia Petitbon.
Petitbon, voilà.
Oui. Quel est le lien entre la musique et la physique quantique ?
Ah ben voilà, c'est justement...
Vous
c'est
êtes
la
passionné
corde.
De physique ou...
Oui, il y a quelques années, je me suis un peu intéressé à la physique quantique et j'ai trouvé des corrélations extrêmement pertinentes entre la culture artistique musicale et la théorie des cordes, notamment.
Eh bien, vous allez pouvoir poser toutes les questions quantique. Que vous voulez à Étienne Klein. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Vous avez publié En cherchant Majonara chez Flammarion, c'est un scientifique, Ettore Majonara. Je vous laisse dialoguer avec Didier Locoud, puisqu'il voulait parler avec vous de physique quantique, c'est étonnant.
Bonjour, c'est vraiment un honneur de vous avoir et au bout du fil et de vous parler, parce que voilà, moi je suis fan de l'astrophysique et je sais que vous avez, je connais un peu vos travaux et vos recherches et je me pose toujours cette question de la relation entre la culture musicale, enfin la discipline musicale et celle du chercheur. Voilà, est-ce que Quel est le point commun? Est-ce qu'on ne travaille pas sur les mêmes dimensions au niveau de l'intuition? Voilà, je voulais vous poser...
Alors, je connais des physiciens qui sont mélomanes, d'autres qui sont musiciens, d'autres qui ne sont pas musiciens, donc ce n'est pas une détermination stricte. Mais parmi les pères fondateurs de la mécanique quantique, hein, ceux qui ont travaillé sur l'atome dans les années 20, il y avait beaucoup de physiciens musiciens, comme Schrödinger, comme Einstein lui-même qui joue du violon, oui, comme vous. Mais il y avait des exceptions, par oui, exemple Paoli. Paoli ne jouait d'aucun instrument. Donc je ne sais pas si on peut parler d'une relation stricte. En tout cas, la musique est évidemment une source d'inspiration pour développer des nouvelles idées, pour former de nouveaux concepts. Vous parliez de la théorie des supercordes tout à l'heure. Oui. Moi, j'aime beaucoup les anagrammes, et l'anagramme de la théorie des supercordes, c'est de la poussière d'orchestre.
Oh, c'est joli, comme on est de la poussière d'étoiles, en fait.
Voilà. Et alors, dans l'idée de la théorie des cordes, il y a l'idée que toutes les particules sont des vibrations d'une particule élémentaire qui a la forme d'une corde, justement. Et donc, cette corde peut vibrer à différentes fréquences, et à chacune des fréquences de vibration correspond une nouvelle particule.
Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que la musique touche d'une manière un peu subliminale l'humain? Est-ce que parce qu'en fait c'est de la vibration, que la vibration est tout autour de nous et on est nous-mêmes vibration? Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation très étroite?
En tout cas, il y a une relation. Est-ce qu'elle est très étroite? Ça dépend justement, est-ce que la théorie des supercordes qui est à l'ébauche aujourd'hui est la bonne théorie pour décrire les particulières interactions? C'est une question qui est ouverte. Maintenant, vous savez, la base de la physique quantique, c'est qu'à tout objet matériel, à toute particule de matière, on peut associer une vibration, une onde.
Oui.
C'est un Français, Louis Le Broglie, qui a développé ce résultat dans les années 20. Et ça, c'est vraiment un principe qui est à la base de la mécanique quantique, l'idée que matière et ondulation sont des concepts liés.
D'accord, oui. Alors, en revenant à Einstein, c'est vrai qu'il était violoniste et il paraît qu'il jouait relativement juste.
Ah, c'est vérifié, il n'y a pas d'enregistrement. On dit qu'il avait besoin de jouer de cet instrument pour laisser reposer son esprit et trouver de nouvelles idées, pour se mettre au calme en quelque sorte.
Oui, c'est vrai.
Au diapason du monde qui l'entourait.
Juste une petite question comme ça qui me... Est-ce que vous pensez que lorsqu'on cherche quelque chose... Donc dans l'improvisation, puisque la part d'improvisation me semble très importante, une sorte de chaos dans lequel on se retrouve, on retrouve un chemin. Est-ce que vous pensez que souvent on trouve quelque chose, mais ce n'était pas ce qu'on avait cherché?
Ah bah très souvent. Par exemple, pour revenir à la physique quantique, un des pères fondateurs, c'est Max Planck. Max Planck, en 1900, à propos d'un problème qui s'appelait le problème du corps noir à l'époque, établit un résultat avec lequel il ne sera pas d'accord pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on lui démontre que ce qu'il avait trouvé était la seule solution possible du problème posé. Autrement dit, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on trouve, ce qui veut dire qu'on peut être amené à découvrir des choses qu'on n'attendait pas.
Merci Étienne Klein d'avoir répondu. Moi je me suis effacé, c'était passionnant d'avoir répondu à Didier Lecoud. Alors surtout Étienne Klein, je sais que vous revenez nous voir et vous serez l'invité à la place de Didier Lecoud le 11 novembre prochain, et on parlera plus longuement de Majonara et de la physique quantique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
à vous.
Didier Lecoud, est-ce que vous reconnaissez ce groupe? Alors, il ouvre des grands yeux, je vais vous dire ce que c'est le grand ensemble du CMDL.
Oh la vache, ça, alors là.
Ça vous dit quelque chose, le CMDL?
Bah oui, c'est mon école, oui.
Bah oui, c'est le Centre des Musiques Didier Lecoud.
Ça sonne bien, on aurait dit Miles Davis.
C'est quoi ce centre?
Ben, c'est un centre de formation professionnelle qui est rentré aujourd'hui en enseignement supérieur.
Oui, c'est une vraie école professionnelle. Hein,
oui, c'est une école
reconnue
internationale, reconnue par l'État.
Ouais.
Et donc sur les musiques improvisées et les concepts d'improvisation.
Quelle est la force de l'improvisation? C'est un de vos grands...
pour moi, l'improvisation, ouais, c'est le centre de la vie. Je veux dire, il n'y aura pas de vie si elle ne savait pas s'improviser.
En même temps, la musique s'écrit, forcément. Enfin, il faut aussi de la musique écrite.
Oui, mais l'écriture n'est qu'une façon de fixer les choses. Mais la vraie réalité, c'est qu'on improvise tous. Est-ce que vous avez dit aujourd'hui, dans votre interview, tout ce que vous aviez pensé dire?
Ah non, il y a des choses dans le dialogue, forcément, il y a des questions qui viennent et qui surviennent, heureusement. Tiens, puisqu'on parle d'improvisation, je peux vous demander un petit exercice?
Je vous en prie.
Votre violon est juste posé là à côté de vous.
D'accord.
Une petite impro du coup.
Ça va être très improvisé dans les conditions, bah oui, mais alors, j'aime ça.
Le temps que vous attrapez votre violon, je vous remercie parce que c'est vrai que c'est pas facile. L'acoustique n'est pas excellente. C'est en direct dans le studio de France Info. La place non plus n'a pas beaucoup de place. Diallo Koud, il se met dans un petit coin. On lui a mis un micro à côté. Et c'est parti pour une impro. C'est quoi d'ailleurs ?
C'est un blues.
Un blues. Allez, c'est parti. Je suis le seul à applaudir, malheureusement, je suis désolé, mais les techniciens derrière sont ravis aussi, formidables. En direct dans le studio de France Info, je vous ai pris en photo, je vais la tweeter dans quelques minutes, comme ça les auditeurs pourront voir que vous étiez vraiment là et que vous avez vraiment joué. C'est quoi comme violon que vous avez ?
C'est un violon tchécoslovaque que j'ai acheté à New York il y a 20 ans.
Et est-ce que c'est l'archer qu'on vous a offert à Nancy Jazz Pulsation il y a déjà quelques années ?
Non, parce que je l'ai offert à ma fille qui joue du violon.
On va parler de la transmission de la musique, même en spectacle, quand vous avez des enfants face à vous, vous les amené vers la musique, extrait d'un reportage de France 3 Rhône-Alpes sur votre prestation. C'était un festival à Vienne.
Ah oui, on ne tape pas dans les mains dans le jazz comme on le fait pour la Star Academy. C'est pas pareil. Hein ? C'est pas pareil. Regardez, il va vous montrer. Et quand il va vous montrer, vous tapez des mains, pas avant. D'accord ? Autrement, vous allez être à l'envers, comme des crêpes. On recommence.
Voilà, et là vous montrez, vous jouez, et puis le batteur montre au public comment taper dans les mains dans le bon rythme, c'est-à-dire voilà, sur le bon tempo.
Alors là, j'ai un souvenir extraordinaire. Il y avait 4000 enfants.
Voilà, il y avait des gamins devant vous.
Il y avait 4000 enfants dans les arènes de Vienne, et j'ai réussi à instaurer le plus grand long silence fait par 4000 enfants en leur disant qu'ils allaient battre le record Guinness Book du plus grand silence fait obtenu par 4000 enfants.
Vous allez toujours dans les écoles, dans les lycées. C'est important d'apprendre, de transmettre, de donner l'envie, le goût à la musique.
Mais écoutez, je pense que quand on transmet, on permet à l'autre de mieux vivre, et celui qui transmet, eh bien, ça lui permet de pouvoir un jour mieux mourir.
Vous avez écrit un rapport sur l'apprentissage et la transmission de la musique que vous aviez remis au précédent gouvernement. Alors, c'était très contesté par les directeurs de conservatoire. C'est étonnant d'ailleurs. Pourquoi vous êtes en contradiction ?
Ils sont moins
dans l'impro que vous, c'est ça ?
Non, mais c'est normal parce qu'on est dans des dimensions un peu différentes. Mais en plus, j'avais attaqué personne. Mais je crois que c'est une peur. C'est la peur de sortir de son terrier, quoi.
Il enterrait ce rapport ou
puisque maintenant il est suivi des faits, et en fait ce sont les régions, ce sont les départements qui prennent possession de ce rapport, notamment à Cergy-Pontoise où ce mois-ci, au mois de novembre, on inaugure tout un gros dispositif qui va s'adresser à 2000 enfants sur une nouvelle manière d'enseigner la musique.
Parce que des fois ça paraît très barbatif la musique, on a souvent entendu ça, alors que pas du tout. Il faut commencer à quel âge d'ailleurs, le plus tôt possible ?
Il faut commencer surtout avec du plaisir, que ce soit tôt ou tard, la notion de plaisir est indispensable. Malheureusement elle n'est pas toujours présente, et loin de là, dans la manière d'enseigner la musique, malgré toutes les avancées qui ont eu lieu encore aujourd'hui. Oui, il y a encore du travail.
On va se quitter avec votre deuxième choix musical, et c'est du violon, Ronan Le Bars, Bleuen, extrait du disque L'Âne d'Our.
Thank you.
Voilà donc Bleu Haine, extrait du disque L'Âne d'Our, votre deuxième choix musical. Rendez-vous le 14 novembre au Châtelet pour les 40 ans de carrière de Didier Locoud. Et deux musiques de films, des films qui sortent.
Oui, un film qui sort au mois de novembre, c'est Young Pérez, un film de Jacques Guaniche et qui parle de la vie d'un boxeur pendant la guerre. Et puis un autre film, c'est le film de Catherine Breillat qui sort un peu plus tard au mois de février, son tout dernier film, Abus de faiblesse.
Merci d'être passé dans le studio de France Info.
C'était un plaisir.
Didier Locoud.